was nothing I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. Oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Cause I'm happy just to dance with you.
Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
Aujourd'hui, 15 juin, parlons du parcours d'une championne hautement particulière. Une pionnière malgré elle, l'américaine Margaret Abbott, qui a poussé ses premiers cris à Calcutta en Inde, le 15 juin 1878, va en effet faire l'objet d'une bizarrerie jusqu'au jour de sa disparition en 1955. C'est à l'adolescence que Margaret, sa mère et toute la fratrie Abbott se rendent aux États-Unis, à Boston, après la disparition de leur père. C'est là-bas, dans l'Illinois, qu'elle va découvrir le golf et s'y adonner régulièrement à la discipline. En 1899, c'est avec sa mère qu'elle décide de se rendre à Paris pour une première raison, participer à l'Expo universelle. Mais Margaret a d'autres desseins dans son esprit, c'est d'étudier au sein de la Ville Lumière. Un an plus tard à peine, les deuxièmes Jeux Olympiques modernes de l'histoire s'ouvrent à Paris. Le golf est présent pour la première fois au programme et une épreuve féminine est même organisée. Celle-ci se déroule à Compiègne dans l'Oise. Margaret et sa mère, Marie Abbott, font partie des athlètes inscrites. Mais ces dernières ne sont absolument pas au courant que cette compétition est intégrée aux Jeux Olympiques. Et à vrai dire, cela ne va pas empêcher à la plus jeune des Abbott à remporter ce tournoi qu'elle pensait tout simplement amical. Elle ne le saura jamais, mais Margaret est la première athlète américaine championne olympique, mais également la première golfeuse médaillée d'or de l'histoire des Jeux. Mais de ça aussi, elle ne se doutera jamais. Ce n'est qu'après des années de travaux et de recherches qu'une professeure d'université américaine, Paula Welch, a pu entériner ce constat. Pour la petite histoire, Marie Abbott, quant à elle, prendra la 7e place du tournoi olympique, elle aussi, sans le savoir. Allez, quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
Bienvenue sur Ozondes FM 99.7.
Vous écoutez une nouveauté Ozondes FM.
Hey there, intrusive thoughts, you don't make sense at all. Wish you would go away with some paracetamol. Hey there, intrusive thoughts, maybe I'm wired all strange. All these intrusive thoughts, don't know what's real or not. They scream inside my head, wish I could kill the Lord. I've got intrusive thoughts, maybe I'm wired all strange. Change. A thousand of you like an army. It's weird cause you don't wanna harm me. Kinda messed up that you are me. Can't we just play nicely? Fuck you intrusive thoughts, you intrude on everything. This better shut you up, up in my mess again. Why do you come around and show me I'm wired all strange? I could jump off this balcony, no one would care. My friend wants to kill me, I know it, I swear. And I'm not what I thought when I thought that I wasn't all there. Thoughts we got off on the wrong foot back there, come on in, I'll put the kettle on. They're just intrusive thoughts and maybe I'm not all that strange.
We fight all the time but tend to forget. I say that you're mine but you ain't mine yet. We see our whole lives in pictures and text. Maybe that is why we don't see the end. I don't like getting caught in emotions. Most times we end up broken. Sometimes it's better if you don't. As far as I know, we're heading for a spiral and calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living off the high notes, skipping all the milestones. It's feeling good. As far as feelings go, as far as feelings go, as far as feelings go. I hurt all the time and never slow down. I don't show that side, it's better for now. And I'll relive the times we spent in the clouds. You'll forgive the times that I let you down. I don't like getting caught in emotions. Most times we end up broken. Sometimes it's better if you don't. As far as I know, we're heading for a spiral and calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living off the high notes, skipping all the milestones. It's feeling good for now, as far as feelings go. As far as feelings go. We may never know.
may never know, we may never know, we may never know, as far as feelings go. We may never know, we may never know, we may never know, as far as I know. We're heading for a spiral and calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living off the high notes, skipping off the milestones, it's feeling good for now. As far as feelings go, as far as feelings go, as far as feelings go, as far as feelings go.
to be polite when you're carrying gear. Where anywhere I travel, get the idea. It's me, my piece of dope, I hope to talk with no fear. I steer with my beer, good times inside. I fight for the right to be high as a kite. Right, it's a ganja thing, roll up and sing. I'm gonna free the weed one day when you find that we're controlling. I had a dope in Dublin, the Guardian, no trouble in my pizza pot in Paris. I be keep my bong a bubbling and burning up my burning a bloody big big bong. In reefer and I be there, yeah, the shit is going on. The lumps in Lyon, I buy a block in Bordeaux. I went to Belfast on a plane and with a spliff to go. You know, Glasgow blows and London, then I start a roll. Cause we gonna free the weed one day when we have got control. Me and my mate Mr. Max, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. Me and my mate Mr. Max, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. Argentina, Tokyo was meaner. Got to Perth and couldn't believe the grass was much greener. I met a man in a bar in LA, he's a star. He sold me a sample from the back of his car. I'm off to Ottawa on a hot pot trail. So much for sale, I got a mission, can't fail. Let me wail against the war, what for? The reaper I roll. We'll free the weed one day when we take control. I'm a mate and Mr. Marks, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. Me and my mate and Mr. Marks, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. Monks, am I making it clear? It's Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. We're anywhere I travel, get the idea. You find my piece of dope, I hope I talk with no fear. I steer with my beer, good times in sight. I fight for the right, be as high as a kite. It's a ganja thing, roll up and then sing. We'll free the weed one day. Me and my mate and Mr. Marks, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear. Me and my mate and Mr. Marks, making it clear, Mr. Nice to be polite when you're carrying gear.
Nous sommes partis le 15 mai des sources de la Vienne à Saint-Sétier sur le plateau de Millevaches.
Et nous marchons jusqu'à sa confluence à Cannes-Saint-Martin, où la Vienne rejoint la Loire, dans la plaine de Touraine. Faut-il encore aller dans le sens du courant ? Une marche exploratoire de l'artiste Cécile Pitois et du journaliste Nicolas Beublé. Pour ce quatrième épisode des Carnets de Vienne, notre déambulation se passe à Limoges. La capitale du Limousin, plus grande agglomération urbaine sur la Vienne, a un fort passé industriel avec la rivière. Et dans le quartier des Ponts, appelé quartier des Ponticots, la population ouvrière de la ville a façonné une identité à part avec la Vienne. Pour rencontrer l'un de ces Ponticots, j'ai voulu anticiper. J'ai envoyé des mails, passé quelques coups de fil. On m'a assuré qu'il n'existait plus de vrais Ponticots. Mais moi, je ne suis pas passéiste. Je veux juste trouver quelqu'un qui habite ce quartier depuis suffisamment longtemps pour m'en parler. Et puisque je ne peux pas passer ici sans essayer d'en trouver un, le début de ma quête m'emmène dans un café, aux côtés de Marie et Jean-Jacques, rencontrés en chemin.
Un jour, il est tombé, malheureusement. Mais on a revu sa fille après, qui nous a dit qu'il allait bien, qu'il était chez lui de nouveau. Et qu'il marchait de l'autre côté. Du coup, il ne marchait pas dans le même sens que nous, maintenant. Mais on ne l'a pas revu depuis. Je vais essayer de reprendre des contacts, et puis je peux te tenir au courant, si tu vois. On peut se tutoyer. Excuse-moi, ça me gêne de vouer. Vous allez plutôt dans les deux sens, hein, parce que là... Ça me gêne de te voyer tout le temps.
Je viens des sources de la Vienne exprès.
Il marche le long de la Vienne.
Et pourquoi vous n'allez pas carrément à l'endroit ?
Où ça ?
Au Ponticot, au Pont Saint-Étienne.
Mais on en vient.
Mais il n'y a pas de café.
C'est dimanche aujourd'hui.
Non, mais il y a le café, le restaurant, mais les gens du restaurant, ils n'ont pas.
Il y a certainement des anciens qui vont au restaurant. Laissez-moi tout.
Je ne peux pas
faire la place.
Ah si, vous pouvez m'aider.
Ah, Robert, Jean-Jacques, le prénom du monsieur, Robert Billardot. Comment il s'appelle ce monsieur ? Vous savez son prénom ? J'essaierai d'aller voir tout à l'heure si je vois ses filles. Parce que lui, il est vraiment typique du coin, puis il a l'accent. Enfin, il aurait plein de choses à raconter, je pense, ce monsieur. Il habite depuis des années.
Le lendemain, Aurélien Gendillou, guide conférencier de l'Office de tourisme, nous conduit en bord de Vienne, dans ce fameux quartier des ponts.
Une urbanisation des bords de Vienne, avant la révolution industrielle, c'est pas quelque chose qui est extrêmement... comment dire ? Extrêmement présent. Après, donc, c'est toute l'apparition du quartier qu'on appelait des Ponticos, le quartier des ponts. Il y a cette proximité-là avec la Vienne qui est importante, avec les ponts. Et moi, j'ai des grands-parents qui sont nés dans ces rues.
Ils sont quoi ?
J'avais trouvé un extrait d'acte de naissance de mes grands-parents. Ils sont nés rue du Clos Sainte-Marie. On y est, là. Oui, ils étaient Limougeaux, enfin, ils étaient surtout Ponticos. Ils étaient Ponticos parce que en haut, là, plus les quartiers de la bourgeoisie, c'était ceux de la ville, qu'on appelait les villos. Il y avait vraiment une opposition entre les villos ou les Ponticos. Et ce qui montre bien d'ailleurs que quand on était Ponticos, on était souvent là avec l'exode rural, puisque c'était ceux de la ville. Donc c'est que par opposition, on n'en faisait pas partie. La Vienne les faisait travailler. Parce que c'était des hommes de feu, donc ça pouvait être des porceliniers, ça pouvait être aussi des naftos. Il y avait le port du Navet à Limoges. Alors, port du Navet, N-A-V-E-I-X, hein, d'accord. Non, rien à voir avec le légume. Ce port du Navet, il récupérait le bois. Alors, le bois qui partait du plateau de Mille Vaches, et donc il va suivre la Vienne. Donc, petit à petit, oui, le bois descendait. A été récupéré, les Ponticos pouvaient avoir un bateau à fond plat et un compte, c'est-à-dire une grande perche qui leur servait à récupérer le bois, à le placer ensuite sur la rive. Il pouvait y avoir l'équivalent de plusieurs étages de bois qui ensuite partaient dans les manufactures qu'ils l'avaient acheté. Les femmes, elles, étaient lavandières, beaucoup. Voilà, c'est-à-dire qu'elles lavaient le linge des villos, justement, elles lavaient le linge chez elles et puis après le rincer, hein, aller le battre, hein, ce qu'on appelait le peiteux, un genre de battoir, vous voyez, en bois, elles allaient le frapper pour enlever l'excédent de lessive, le rincer dans la Vienne. Et donc tout le chemin là que l'on a fait, mais il faut s'imaginer aussi que c'était des dizaines de mètres de fil à linge ici. Voilà, beaucoup de fil à linge, et un linge qui allait ensuite remonter jusque sur les hauteurs de la ville. Mais vu le relief et les escaliers, il n'y avait pas de charrette. C'est-à-dire que c'était des ballots de linge, d'accord, des lavandières qui allaient se retrouver avec un bandeau sur le front pour retenir le baluchon dans le dos et qui montait comme ça jusque sur les hauteurs de la ville. Donc c'était quand même un métier extrêmement, extrêmement physique. On a ce qu'on appelle l'Université Populaire du Pont Saint-Étienne, l'UP. C'était un endroit où c'est une association, donc moyennant une légère adhésion, vous aviez accès à des cours, à une bibliothèque, des médecins aussi qui organisaient des conférences.
Comme ça, à quelle époque ?
Là, on est. Elle était créée début du XXe siècle, là, des années 1900, on va déjà avoir l'Université du Pont-Saint-Étienne. Donc on allait informer les ouvriers sur les dangers liés à leur travail. On parle beaucoup de la silicose, par exemple, quand on parle des mineurs de charbon. Mais alors, le charbon est présent dans les fours, mais la silice, c'est la poussière aussi, dans la poussière de la porcelaine. On va retrouver cette silice qui remplit les poumons. On va leur parler aussi des méfaits de l'alcool, parce que forcément, près d'un four, on se déshydrate beaucoup, vous voyez, près d'un four chauffé à 1300 degrés pendant 2 jours. Donc, voilà, là, c'était beaucoup. Alors, même du vin coupé d'eau, certes, mais bon, du vin quand même, parce qu'on était dans une époque où on considérait le vin comme un fortifiant, comme une nourriture. On n'avait pas du tout le même rapport à l'alcool. Et tout ça faisait que l'espérance de vie d'un homme de feu, un homme qui passait sa carrière près des fours, c'était 35 ans. Oui, 35 ans d'espérance de vie, vous voyez. Je vous dis, quand on était vilo, on venait pas trop par ici. De toute façon, il y avait bien quelques Ponticos pour jouer les gros bras sur les ponts et vous dire si tu sais des ponts passo, si tu sais des lo vilo, alla ego. À savoir, si tu sais des ponts passo, si tu es des ponts passe, si tu sais des lo vilo, alla ego, si tu es de la ville, à l'eau. On te jette à l'eau. Alors, je sais pas si la menace a été mise à exécution ou pas, ça me surprendrait pas outre mesure, mais vous voyez, ce serait. C'était vraiment un endroit bien, bien spécial, c'était vraiment les Ponticos, c'était une identité de quartier, vraiment.
Et est-ce qu'on sait estimer le nombre de populations qui vivaient, qui vivaient ici ?
Non, j'ai pas de chiffres précis à vous donner là par contre.
Ni la masse ouvrière
Alors, c'était uniquement des ouvriers, ici, voilà, il n'y a pas de...
Ah oui, non, je veux dire...
Une cité sociale de ce côté-là, hein. c'était un quartier ouvrier.
Non, je veux dire, la proportion d'ouvriers dans la population de Limoges au plus fort de l'industrialisation de la ville?
Alors, j'ai pas vraiment un pourcentage. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a 92 000 habitants, on a déjà au moins 15 000 personnes qui travaillent dans le domaine de la porcelaine. Et je ne parle pas donc des autres industries, les chaussures, par exemple. C'était un pourcentage très très élevé. Après, j'ai pas de pourcentage particulier, mais c'était certainement une forte majorité. Oui.
Une fois la visite terminée, je poursuis ma quête dans un rayon restreint autour du pont Saint-Étienne, cœur historique du quartier.
Il faut peut-être persister, on n'a pas toujours tout au premier coup dans la vie.
Non. Vous savez, un journaliste est...
Ouais, il n'a jamais, non.
Il n'a jamais tout du
donc,
premier coup.
Donc, il faut persister, essayer de...
Tout à fait.
J'ai confiance. Vous allez réussir.
Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis journaliste, je descends la Vienne à pied et je cherche des ponticots.
Je me demande si le voisin... Tu sais par où on est descendu, là, que j'ai fait voir le jardin de Michel, là, je me demande si... Parce que lui, ça fait tellement longtemps qu'il habite là. Ah, je sais pas. Mais on va passer par là, Josette.
Oui.
Je vais lui faire voir. Peut-être que Michel, on va le voir dans son jardin, je sais pas. Mais les ponticots, je sais pas s'il en reste beaucoup, en fait. Hein.
Parce qu'ils auraient quel âge? Ils auraient 90, 100 ans?
Oh oui, ah oui, les vrais ponticots, oui. Je sais pas, peut-être que si je vois Michel, là, je peux lui demander, mais j'en suis pas sûre. Hein.
Chut. Vous me reconnaissez? Je suis la sœur de Pascal. La sœur de Pascal.
Donc il me dit qu'il y aurait des... Là-bas où on était, où il y avait le Saint-Étienne et le Pontico, un restaurant qui s'appelle le Pontico.
Ah oui, mais on peut pas la
il m'a dit qu'il y aurait des gens par là qui habitent, ouais. Qui... des anciens de... qui ont...
Non.
Donc ces gens-là, vous me dites, ils habitent vers le Pontico.
Vers le Pontico, oui.
Ok.
Vers le coiffeur.
S'il vous plaît. Je cherche des ponticots. Oui. Je cherche des ponticots. Des ponticots.
Alors, en face, et après, vous continuez dans notre petite maison là-bas. Dans le quartier là, vous en trouvez d'autres.
Bon, bah, je vais revenir demain matin, ce sera mieux que ce soir alors.
Ben oui.
Pour sonner.
Mercredi, 9h du matin, je sonne chez Denise, le dos courbé dans son potager. Elle interrompt ses activités pour me parler de son quartier.
On aurait pu rentrer, remarquez, c'est pas fait bon.
Oui. Bon, moi, ça me va.
Bon, eh ben. Oh, mais il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, dans le quartier, voilà, je sais pas, oui. Qui saurait peut-être mieux que moi. Surtout que moi, maintenant, j'ai vieilli aussi. Il y a des choses que je ne me rappelle pas.
Vous êtes arrivée en quelle année dans ce quartier?
Eh bien, nous sommes arrivés en... Que je dise pas de bêtises. En 66, je pense. 65 ou... Vous voyez, je ne me rappelle même plus. Mais 65, 66. 65, oh non, c'est pas... Je ne crois pas que ça soit... Ah, oh, peut-être que si. En avril. 65... Non, c'est 66. J'y reviens maintenant, ça c'est plus sûr. En 66,
donc,
oui.
Ça fait 60 ans.
Et, oui, presque, oui. Parce que, et quand je suis venue là, eh bien, on avait visité, mais c'était pas ici, c'était dans le petit chemin là-bas, une maison pour venir habiter à Limoges. Et quand on est parti, j'ai dit à mon mari, tu sais, on va pas y rester longtemps là. Hein. Parce que quand on est arrivé là, c'était pas comme c'est maintenant. Voyez-vous.
Décrivez-nous comment c'était.
Ben c'était. Il y avait les nouilles qui couraient dans le chemin là-bas, le petit chemin qui monte entre les maisons là-bas, à côté de chez Madame de Nardou.
C'est quoi les nouilles?
Ben les pâtes. Vous savez pas ce que c'est les nouilles? Ben c'est des pâtes. Parce que les gens, ils avaient leur machin. Il y avait une dame un peu plus haut, en haut du petit chemin là, quand elle faisait, puis elle le vidait dans le, elle le vidait dans la rue. À cette époque, il n'y avait pas tout à l'égout. Alors ça courait là-dessus. Alors vous imaginez un peu si ça faisait propre. Ça me parlait d'autre chose, parce qu'elle habitait un peu dans le tournant, et c'est souvent que moi j'étais montée laver ou mettre de la javel, parce qu'elle avait mis ou du pipi ou je sais pas quoi, tout ce qu'elle pouvait.
Et qu'est-ce qui restait alors de l'identité du quartier Pontico déjà quand vous êtes arrivé en 1966?
Ah ben les gens qui y avaient vécu là, il y avait des gens qui étaient anciens quand même, qui avaient vécu là longtemps aussi, et ben il y avait la pêche, ils pêchaient de temps en temps quand ils en avaient envie, quand ils ne travaillaient pas ou autre, ben, ils pêchaient. Oh, même aujourd'hui encore, il y a la pêche. Il y a bien certains pêcheurs. Et puis, c'était pas la vie qui est aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces gens qui défilaient là, en se promenant. Là. Parce que vous verriez l'après-midi, là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la fête. Remarquez, c'est agréable aussi, c'est ça. C'est très, et puis on peut aller très loin. On peut, en montant par en haut, on va jusqu'au palais. À
ben
pied.
J'en viens.
Ah ben voyez que vous êtes au courant. Ben voilà, oui, enfin, ça a changé évidemment, et ça va changer encore plus parce qu'ils ont amélioré de l'autre côté là-bas. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est plus large, c'est plus, puis c'est moins dangereux parce que il y avait rien qui protégeait les enfants de tomber en courant dans le petit chemin qu'il y avait avant dans la Vienne ou autre. Il y avait pas de rien qui protégeait quoi. Que là maintenant ils ont mis des grilles, quand même c'est fermé.
Mais est-ce que à force de rendre le lieu très agréable et d'en faire un peu le poumon vert de la ville de Limoges, est-ce que le quartier change aussi d'habitants et est-ce
Ah, qu'il... c'est pas la même vie. C'est pas du tout la même vie. Avant, ils étaient tout, enfin, les uns chez les autres. Enfin, même encore, il y a encore quand même une certaine attitude les uns envers les autres. Mais c'est pas la même chose que c'était avant, c'est sûr. C'est sûr. Puis la vie n'était pas la même aussi. Alors tout change en même temps. Et puis alors maintenant c'est la promenade, là c'est la grande promenade. Ah, des fois c'est à pleine rue en début d'après-midi, là quand il fait beau. Mon prénom est Denise.
Donc Denise, oui. Habitante depuis presque 60 ans.
Voilà, oui, parce que mon fils est né presque tout un an ou deux ans, non un an après. Il va avoir 59 ans d'ailleurs. Eh bien, on était là, enfin, vous voyez, oui, ça va faire dans pas longtemps, 60 ans.
Et vous étiez arrivé à quel âge ?
Ah, ben j'avais 20. Je sais pas, j'étais que mariée. 22, 20, 21 par là, 21. Oh, j'avais peut-être pas 22 ans, peut-être que si. C'était en 65. Et moi, je suis née en 41. Alors voilà.
Je sais tout alors.
Vous savez tout. Et cette année, je vais avoir 84 ans. Alors, voyez, eh, ça tourne.
Et le jardin est bien entretenu.
Et comment ?
Le jardin est bien entretenu,
ah,
donc
ben,
c'est que la
oui,
forme va bien.
J'aime bien, oui, j'aime bien. Ça me, j'adore. S'il fait beau, moi, je suis pas dans la maison. Hein. Je suis dehors. La Vienne, elle débordait aussi. Chose, ça, il y a longtemps que c'est pas arrivé. C'était arrivé la première année qu'on avait acheté là. Et depuis, ça a remonté un petit peu, mais pas comme ça. Parce que ce coup-là, elle montait en haut des escaliers là. Et dans la rue, partout. Jusque plus haut là-bas. Mais maintenant, ça se produit beaucoup moins. Ils ont fait capter un peu, ils ont fait des barrages, je sais pas trop quoi. Alors il la manipule un petit peu, quoi.
Elle est régulée, on va dire.
Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom, mais ça venait pas. Oui, il le règle un peu quand même, quand ça pleut trop fort. Il arrange ça, heureusement. Parce que c'est pas marrant, hein. Ouh là là. Et la nuit, ça faisait un bruit. Oh, ce bruit. Voilà.
Bah merci Denise.
Eh ben,
bonne journée.
Prie, bonne journée à vous.
Et maintenant, voici le contrepoint de Cécile lors de sa traversée du paysage.
Alors, en fait, je suis dans un drôle d'endroit. Alors, vous entendez un écho. Pourquoi cet écho? Parce que je suis sous un pont. Voilà, il y a un petit ruisseau qui passe à côté et j'aime bien le son. Alors, là, j'avais envie de vous parler des cartes. Des cartes et de l'orientation en général. Car on fait beaucoup de demi-tours. Souvent, on veut s'économiser, mais finalement, on fait plus de kilomètres que prévu. Souvent, on est avec nos cartes. Et puis, avec Nicolas, parfois, moi, j'ai une carte et lui, il a une copie ou bien nos GPS. Mais en tout cas, quand on a les cartes, on n'a pas du tout la même manière de lire les cartes. Donc, Nicolas, il tourne sans arrêt sa carte comme une orientation dans le sens de sa marche. Tandis que moi, je garde des cartes toujours au nord. Bon, là, je sors du pont parce qu'il y a des voitures. Alors, je me dis que c'est peut-être dangereux. Et donc, je vais passer à travers la route. Me voilà en sécurité. Et donc, voilà, je disais, Nicolas va tourner sa carte et moi je la laisse au nord. Et une fois, il me dit, mais non, ça va pas du tout, Cécile, il faut tourner ta carte. Je dis, mais non, j'ai pas besoin de tourner ma carte parce que je sais où est le nord, quoi. Et il me dit, dans ces cas-là, il faut trouver le nord et orienter ta carte vers le nord. Mais je lui dis, non, c'est dans ma tête que je fais la translation. Passons. Le soir arrivant, j'en reparle à Mathieu, donc la personne qui nous suit en camion et que vous entendrez bientôt sur les lignes. Et il me dit, mais Cécile, c'est juste la différence d'âge. Alors, je n'avais pas précisé, on a 30 ans d'écart avec Nicolas. Et il me dit, lui, il est né à une époque où en fait, il a pris les cartes sur un téléphone. Et en fait, il fonctionne un peu comme un GPS. Donc c'est pour ça qu'il tourne les cartes pour s'orienter. Alors, j'avais déjà vu cette pratique, mais c'est vrai qu'en fait, les gens de ma génération ont à part exception, mais en général, la translation se fait dans le cerveau. Et je pense que maintenant, c'est un apprentissage différent. C'est pas mieux, pas moins bien, mais en tout cas, c'était assez drôle, quoi. Donc voilà, en tout cas, lui comme moi, lorsqu'on est ensemble ou lorsqu'on est séparés, on se retrouve et c'est parfait. C'était un petit point cartographique.
Juste après Limoges, et je me retrouve sur un camping au bord de la Vienne. Et je repense par rapport à l'orientation aux oiseaux migrateurs qui m'avait déjà posé question par rapport à l'effacement du lac à Perlevade, sachant que c'est actuellement une zone humide et que les oiseaux migrateurs qui avaient l'habitude de venir autour de ce lac ne vont plus voir le lac vu qu'il n'existe plus. Donc ça, c'était un podcast précédent. Et je voulais revenir en fait sur, on va dire, la sensation, l'émotion et on va dire le savoir un peu empirique que l'on peut avoir en marchant. Et je suis tombée sur un article que j'ai trouvé vraiment intéressant à propos des oiseaux et leur orientation. Alors je vais vous lire un passage. Alors, attendez, il faut que j'ouvre le portable, que je trouve le texte. Voilà, c'est bon. Des protéines spécialisées appelées cryptochromes présentes dans les yeux des oiseaux forment des paires d'électrons enchevêtrés lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Ces électrons intriqués réagissent différemment en fonction de l'orientation du champ magnétique terrestre, ce qui donne aux oiseaux une représentation visuelle des schémas magnétiques. Ce mécanisme étonnant permet une navigation précise à travers les continents sans avoir besoin de repères visuels. Alors, voilà pour ce petit passage. Et je me dis que quelque part, nous les hommes, il y a peut-être bien longtemps, on avait sûrement d'autres capteurs comme ça, ou en tout cas des moyens pour s'orienter. Et peut-être qu'avec toutes les techniques qui nous accompagnent, on les perd peut-être petit à petit. Bon, il nous reste toujours quand même le lever et le coucher du soleil, donc c'est une bonne nouvelle.
Merci d'avoir écouté ce carnet de Vienne réalisé à partir de la traversée du paysage de Nicolas Beublé et Cécile Pitois. Retrouvez les prochains épisodes sur vos radios associatives préférées, les plateformes de streaming ou notre audioblog Arte, un projet porté par l'intention publique.
Écoutez aux ondes FM 99.7.
De la musique, des infos locales, des émissions aux ondes FM 99.7, votre radio à Châtellerault. Ça, c'est nouveau sur aux ondes FM. Take down my